I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2,21 gigawatts! Mon Dieu!
Recherche, scalaire.
Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue?
Chut, Jamy, je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Tu laisses à vos banquiers, à vos igloos, à vos pingouins.
Igloo et non igloo. À l'oreille, pas dit que vous fassiez la différence, mais quand on se penche sur la façon de l'écrire, c'est tout à fait autre chose. L'igloo de Marion Voileau commence par un E, comme email, e-commerce, e-réputation. Vous avez compris où je voulais en venir, cet igloo n'est pas fait de blocs de glace, il est électronique. Réservé aux plus petits, cet espace interactif leur propose de participer à des histoires, de générer des sons, au contact de boutons et de capteurs. De la technologie au contact des enfants en bas âge, oulalalala, on n'est pas loin du sacrilège à l'heure où les smartphones et tablettes sont considérés comme des vampires buveurs de neurones, transformant leurs jeunes utilisateurs en zombies. Et pourtant, c'est le projet de Marion Voileau, auteur de la thèse « Le corps au cœur de l'apprentissage grâce au numérique pour la petite enfance », thèse qui a donné naissance au projet Igloo. Marion, vous êtes également cofondatrice du collectif Premier Cri, qui a pour objectif de faire de la recherche collaborative sur la petite enfance grâce au numérique. Bonjour et bienvenue dans notre Igloo sonore.
Bonjour Romain.
Alors en serrant un peu tout, en respectant les règles de distanciation sociale, on devrait avoir de la place pour trois. Car nous avons un second invité. À vous de vous le présenter, j'ai une annonce à faire et c'est une bonne nouvelle puisque cet épisode inaugure notre partenariat avec le Turfu Festival. Organisé tous les ans au mois d'octobre à Caen, cet événement célèbre la recherche et l'innovation participative. Et Marion Voileau y présentera son igloo aux côtés de nombreux autres porteurs de projets. François Millet est justement co-organisateur du Turfu Festival. Quand il ne prépare pas l'édition 2020, il œuvre comme Living Lab Manager au Dôme, le centre de culture scientifique technique et industrielle de Caen. Bonjour François.
Bonjour Romain, bonjour Marion.
Bonjour.
Super, les présentations sont faites. Alors on commence souvent nos épisodes sur une définition. On est peut-être sur un hors-série, mais ce n'est pas une raison de déroger à la règle, car on ne parle pas de n'importe quel numérique. Alors votre thèse et le projet Igloo portent sur le numérique tangible, un numérique sans écran où l'enfant actionne des interfaces et des boutons qui produisent des sons, des vibrations. Alors Marion, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette notion de numérique tangible ?
Alors, avant de commencer un petit peu à parler de l'igloo, j'aimerais juste dire qu'il y a toute une équipe derrière moi et qu'on est à peu près une dizaine de personnes autour de ce projet, partagées entre trois centres de recherche que sont le CRI, le Centre de Recherche Interdisciplinaire, l'IRCAM, l'Institut de Recherche Coordination Acoustique et Musique du Centre Pompidou, et enfin l'ENSI, les ateliers, donc l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle. Et donc, on a vraiment travailler ensemble à l'élaboration de ce projet qui certes fait partie de mon projet de recherche et de thèse, mais voilà, je tiens toujours à préciser que c'est un projet complètement interdisciplinaire et surtout avec de super acteurs derrière.
Bien sûr, vous faites bien.
Donc le numérique tangible. Pour moi, le numérique tangible, c'est vraiment l'idée d'associer un objet physique que l'on peut toucher, manipuler avec un programme ou une application numérique.
Très bien. Est-ce que c'est la même chose que ce qu'on appelle le phygital ?
Alors, j'ai un peu regardé le phygital parce que j'étais pas très familière en tant que designer avec ce terme, parce qu'il est surtout en fait utilisé dans le domaine du marketing pour associer, vous me direz si je me trompe, mais associer le fait de vendre en ligne et en boutique en fait. Donc, effectivement, c'est en lien avec le numérique tangible puisqu'on retrouve l'association entre les mondes tangibles, réels et virtuels. Mais après, il s'agit vraiment d'une toute autre notion, le numérique tangible, puisque c'est vraiment un domaine de recherche en interaction humain-machine et c'est très, très loin du domaine commercial pour l'instant.
Alors, on a utilisé un gros mot tout à l'heure en parlant de tablettes et de smartphones, mais est-ce qu'il y a pour vous l'envie de dédiaboliser le numérique par rapport à l'enfance et au développement des enfants ?
Alors, on entend, c'est vrai qu'on entend souvent parler de dédiaboliser les écrans, et c'est pas vraiment un terme avec lequel je me sens très en accord, puisque dans ma démarche de recherche, j'oppose pas du tout le numérique tangible et l'écran. Je pense que ce sont des dispositifs qui peuvent être tout à fait complémentaires. Il s'agit plutôt d'accompagner les usages des très jeunes enfants, et donc d'envisager des scénarios d'apprentissage et d'usage qui favorisent le développement du très jeune enfant. Mais ce que je souhaite surtout, avant tout, enfin, dans ce podcast, j'aimerais vraiment insister dessus, pardon, c'est éviter de réduire les outils numériques aux seules interfaces à écran. En fait, quand on entend outils numériques, c'est vrai qu'on pense tout de suite à la tablette, au smartphone, et on pense tout de suite à l'écran. Mais aujourd'hui, ce que je souhaite mettre en avant, c'est toute cette question des dispositifs numériques qui sont des dispositifs réels, tangibles, manipulables, et qui s'éloignent petit à petit de l'écran. Et on peut penser notamment à tous ces objets connectés qui en font partie. Et je pense que la qualité, en tout cas première, de ces outils tangibles et manipulables, c'est vraiment le fait de remettre nos interactions en tant qu'être humain au cœur de nos interactions avec la technologie. Le fait de ressentir, de bouger, d'interagir en fait via notre corps.
Et en quoi ce numérique tangible que vous présentez, que vous défendez, pourrait contribuer au développement de l'enfant ?
Alors, je pense que l'enfant grandit aujourd'hui dans un environnement qui est digitalisé. Et ce qu'on essaye en tout cas de prôner avec l'équipe de recherche avec laquelle je travaille, c'est vraiment le fait de pouvoir créer des dispositifs qui favorisent les interactions multimodales, c'est-à-dire à la fois la mobilisation des sens, du geste, du toucher, des interactions vocales, des interactions entre les personnes et les environnements. Il s'agit vraiment de préparer, d'éveiller le jeune enfant au monde numérique. Et de pouvoir changer en tout cas ces interactions, qu'il ne soit plus passif face à ces outils, mais bel et bien, acteur, qu'il soit dans une attitude où il puisse lui-même utiliser de manière convenable ces outils, et puis surtout apprendre à les programmer, à les manipuler, et à en créer de nouveaux, et à imaginer un futur plus souhaitable.
Ok, donc la notion d'interaction, elle est assez importante là, hein.
Oui, tout à fait. L'interaction avec l'environnement, et cet environnement, c'est vrai qu'il est composé à la fois d'objets, à la fois d'individus, et ces objets, ils sont à la fois numériques et ils sont aussi des objets du quotidien. Donc, il s'agit vraiment d'allier les deux.
Bon, assez tourné autour de l'igloo, entrons dedans. Bon, on n'a pas l'image, hein, c'est peut-être l'un des défauts du podcast, mais est-ce que vous pouvez nous présenter l'intérieur de votre création ?
Oui, donc l'igloo est un espace modulaire et mobile qui peut vraiment s'intégrer dans tous les espaces fréquentés par le jeune enfant. Donc il s'agit un peu d'une cabane composée de 6 panneaux qui entourent un socle d'environ 2-3 mètres carrés, le tout recouvert de surfaces textiles de couleur bleu marine. Les panneaux s'assemblent au socle grâce à un système de fermeture éclair en quelques minutes. Il est très léger puisqu'il est constitué principalement donc de textile et de carton. Les panneaux, une fois assemblés, en fait, composent vraiment, voilà, comme je disais, un cocon dans lequel l'enfant peut rentrer. Et à l'intérieur de ce cocon, nous avons disposé différents dispositifs qui sont de couleurs très nettes, très flashy, rouge, vert, jaune, orange. Et puis, petit à petit, au cours d'une narration, l'enfant est invité à manipuler ces dispositifs via différents gestes.
Ok. Il y passe combien de temps ?
Alors, ça va dépendre des expérimentations que l'on peut faire à l'intérieur. Pour pouvoir créer un protocole qui puisse être intéressant pour un très jeune enfant, donc on parle d'un enfant entre 4 et 5 ans environ, le protocole dure environ 10 minutes. Voilà. Donc, l'histoire dure environ une dizaine de minutes et invite l'enfant à vraiment jouer, interagir avec les dispositifs qui sont installés dedans.
Jack ! Tu ne sais pas jouer, Jack ! C'est mauvais.
Et l'igloo date de quand exactement ? Enfin, de quand remonte sa création ? Ça date de l'an dernier ou c'est beaucoup plus ancien ?
Alors l'igloo, ça fait quelques années qu'il trotte dans ma tête. j'ai mis un petit moment à réunir toute cette équipe pour pouvoir le construire et puis aussi le fait aujourd'hui de pouvoir collaborer avec Premier Cri et donc avec des chercheurs dans différentes disciplines, puis des designers, des ingénieurs qui permettent de le rendre réel. Donc nous nous sommes réunis en septembre dernier au sein du Cri pendant 3 semaines en format workshop, atelier, issu vraiment de cet univers des makers. On s'est mis au cœur du Fab Lab du Cri et puis on a créé l'igloo en 3 semaines, c'est-à-dire à la fois l'espace, la narration et le protocole expérimental pour envisager ce lieu comme un lieu d'expérience.
Et du coup, quelles ont été vos principales observations depuis la création de l'igloo ?
Alors, du coup, l'igloo, vraiment, on a pu le tester en février dernier, puisqu'il a fallu ensuite pouvoir créer l'événement, réunir les différents acteurs qui seraient favorables à laisser leurs enfants, en tout cas, explorer cet espace. Donc, malheureusement, c'est vrai que le confinement nous a un peu rattrapés. On espérait pouvoir faire d'autres expérimentations mars, avril et mai dans différents espaces et notamment différentes écoles maternelles d'Île-de-France. Mais finalement, on a pu déjà faire une première étude pilote avec une dizaine d'enfants de 3 à 5 ans. On s'est très vite aperçu que les enfants avaient un vrai engouement à vouloir utiliser cet espace, à vouloir jouer avec, à vouloir rester dedans. Donc déjà, pour nous, ça, c'était une première réussite parce que les enfants, moi, je dis toujours que ce sont vraiment les meilleurs bêta-testeurs. Ça passe ou ça casse. Et là, ils se sont vraiment pris au jeu. Après, ce qu'on s'est aperçu, c'est que avant 4 ans, la compréhension d'une histoire qui sort sur une enceinte est un peu compliquée. Donc, on est vraiment sur un dispositif pour un enfant entre 4 et 5 ans, donc en moyenne, grande section de maternelle. Et après, on s'est aperçu surtout que peut-être l'histoire que l'on avait imaginée pour nous très limpide en tant qu'adulte devait être plus imagée et faire plus appel à l'imaginaire de l'enfant pour que lui aussi se recrée d'autres imaginaires. Et donc là, nous sommes en train d'améliorer notamment la narration et revoir quelques détails, notamment au niveau technique. Je suis encore assez optimiste. Je trouve que c'est vraiment un bon début. Voilà.
Alors peut-être que les enfants de Caen pourront se rendre dans votre igloo puisque c'est là-bas qu'a lieu le Turfu Festival. Mais le Turfu Festival, c'est le festival des sciences participatives. En quoi votre projet d'igloo est-il un projet participatif ?
Alors, il est participatif à plusieurs niveaux. Déjà parce qu'il fait partie du projet Premier Cri et que nous défendons avec Lisa Jacquet, la cofondatrice de Premier Cri, une démarche de recherche participative sur la petite enfance. C'est ensuite un objet donc de conception qui a fait l'œuvre d'un workshop interdisciplinaire, donc participatif dans les acteurs qui ont été convoqués pour créer ce dispositif. Il est participatif aussi puisqu'il permet d'être intégré dans tous les environnements fréquentés par l'enfant, que ce soit donc l'école maternelle, une médiathèque, même une maison. Un environnement familial. Et donc, on pourrait imaginer très bien que les acteurs qui entourent le jeune enfant, que ce soit les professionnels de petite enfance ou les familles, viennent aussi participer au protocole de recherche et récolter les données avec nous. Nous avons ensuite documenté l'ensemble de la conception de ce dispositif et nous aimerions le mettre en complète open source pour que d'autres acteurs, d'autres makers, d'autres chercheurs puissent s'emparer de cette démarche et peut-être venir enrichir ce dispositif et l'améliorer. Nous sommes vraiment dans cette idée de vouloir encapaciter l'ensemble des acteurs avec lesquels nous collaborons. En anglais, empowerment, qui devient donc en capacitation en français. L'ensemble des acteurs en fait qui gravitent autour, que ce soit les enfants, les professionnels, donc les familles, et aussi les chercheurs, les makers, qu'ils puissent vraiment s'approprier ce dispositif. Et enfin, toutes nos données, nous aimerions qu'elles soient les plus transparentes possibles. Nous aimerions vraiment que l'ensemble des données et du protocole que nous expérimentons soient diffusées au cours de nos interventions avec l'ensemble de ces acteurs.
Et est-ce que vous avez perçu des réticences de la part du personnel de la petite enfance ou des parents vis-à-vis de votre igloo et du concept, on va dire, de numérique tangible ?
Alors, pour l'instant, on a plutôt un attrait à la fois des familles et des professionnels de petite enfance qui se demandent comment intégrer le numérique à leur pratique. C'est-à-dire que quand j'ai commencé ce travail de recherche il y a 5 ans autour du numérique pour la petite enfance, j'avais des discours extrêmement réticents. Non, nous, on n'en a pas besoin. Petit à petit, aujourd'hui, on s'aperçoit que ça prend de plus en plus de place dans nos vies et donc dans la vie des très jeunes enfants. Et donc, je pense que les familles et les professionnels de petite enfance sont plutôt très accueillants de ce genre de démarche, c'est-à-dire déjà de les intégrer dans la démarche de recherche et deuxièmement de pouvoir créer des dispositifs qui sont plus innovants, qui sortent un peu de l'écran, qui remettent le corps et l'imaginaire de l'enfant, sa créativité par le jeu. Donc voilà, donc ce sont des dispositifs qui aussi ont été co-conçus avec ces acteurs et donc répondent mieux à leurs attentes, je pense.
Oh, Seigneur Tout-Puissant, Dieu me débranche, des machines qui créent des machines.
Alors, moi, la première fois que j'ai découvert l'igloo, j'ai trouvé que c'était une sorte de fusion entre les tipis qu'on voit de plus en plus dans les chambres ou dans les salons des familles et ce qu'on appelle les boîtes à histoires comme l'Uni, où sont préenregistrées des histoires dans un appareil que l'enfant va pouvoir actionner à volonté. Est-ce que cette image, cette fusion vous parle ?
Oui, tout à fait. En fait, donc moi, je suis vraiment dans une démarche de recherche, c'est-à-dire que je fais une thèse. Et quand on fait une thèse, il faut quand même obtenir des données, avoir des résultats, et on peut pas faire n'importe quoi, surtout lorsqu'on travaille et on fait des recherches sur le jeune enfant. Et en fait, cette idée d'histoire me parle beaucoup parce que en fait, elle permet de sortir du protocole très expérimental et très avec des étapes très précises devant lequel on met l'enfant dans des laboratoires de recherche plus classiques. Et donc du coup, avec ce dispositif, on permet à l'enfant de vivre un scénario expérimental sans vraiment s'apercevoir qu'on est en train d'analyser son comportement. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est comment on peut relier toute cette question de la méthodologie de recherche, d'éviter un maximum de biais, recréer en fait un mini laboratoire qui puisse aussi s'intégrer dans différents environnements et sortir en fait la science du laboratoire pour aller sur le terrain et pouvoir mêler les deux grâce à une démarche de design.
Oui, on est assez loin de l'expérience avec l'enfant seul face à un chamallow à qui on dit « je reviens dans 10 minutes et si le chamallow est encore là, t'en as un deuxième ».
Voilà, l'idée, c'est que vraiment, lui aussi, il vive un bon moment, qu'il vive une expérience qui vraiment développe tous ses sens et son imaginaire. Oui, tout à fait.
Du coup, qu'est-ce que vous mesurez chez l'enfant ? C'est le temps passé, le niveau d'interaction, l'empressement à passer d'une interface à l'autre ?
Alors tout à fait, on est dans une démarche qu'on appelle de recherche mixte. On récolte à la fois des données qualitatives et quantitatives. Qualitatives car on a tout un discours et une discussion que l'on entame avec l'enfant suite à cette expérience au sein de l'igloo. Donc on va lui demander ce qu'il a vécu, comment il s'est senti. Donc ça, forcément pour des enfants de 4-5 ans, on n'a pas toujours un vocabulaire très, très développé, mais on l'encourage en tout cas à définir l'ensemble des actions et des émotions qu'il a pu ressentir. On l'accompagne. Et deuxièmement, il y a effectivement un tas de données plus quantitatives qui vont être notamment sur le temps de latence entre le moment où la narration dit à l'enfant vient appuyer sur le bouton orange et le fait que l'enfant appuie sur le bouton orange. Combien d'enfants auront vraiment appuyé sur le bouton orange ? Voilà, donc on arrive à avoir des données qui soient à la fois très expérientielle, mais à la fois très développementale et comportementale.
Et est-ce que vous avez eu des réactions sur le fait que, en agissant sur des boutons ou vis-à-vis de capteurs, ils obtenaient des réactions assez proches de ce qu'ils pouvaient faire et obtenir sur des interfaces plus classiques, avec l'écran d'une tablette ou d'un smartphone, par exemple ?
Tout à fait. On a eu cette grosse discussion avec l'ensemble des professionnels de la petite enfance avec lesquels je travaille. C'est vraiment cette idée de quand on crée des dispositifs, en tout cas numériques et tangibles pour la petite enfance, qu'est-ce que ces dispositifs apportent de plus que des dispositifs classiques ou des jeux classiques. Et donc là, ce qu'on essaye de travailler, nous, ça va être toute la question de la multimodalité. Donc des interactions qui lient à la fois cette question de la captation de mouvement et puis d'un retour qui peut être sonore, lumineux, vibratoire. Et donc là, effectivement, seul le numérique peut le faire.
Alors le confinement a certainement bouleversé vos plans, mais quel avenir et quelles applications imaginez-vous à votre igloo ?
Alors déjà, on aimerait le tester avec plus d'enfants. On aimerait aussi observer le comportement des enfants lorsque cette expérience a lieu dans les différents endroits cités. Est-ce qu'il a lieu sur le temps scolaire ou le temps périscolaire ? On pourrait observer aussi des différences entre des enfants qui suivent une pédagogie plus classique ou des pédagogies alternatives. Est-ce que l'éveil des sens est vraiment valorisé ? On pourrait aussi imaginer travailler donc avec d'autres Fab Labs. Moi, j'aimerais beaucoup que d'autres makers viennent nous inspirer et nous faire des retours sur les dispositifs en tant que dispositifs techniques et électroniques. Donc ça, c'est un deuxième point. Et puis enfin, on a nous aussi tout un travail de documentation, comme je disais, pour que ce dispositif puisse être approprié par tous, et donc créer une plateforme dans laquelle on viendrait télécharger les plans, choisir les différents matériaux, expliquer comment on a utilisé chaque, on a développé chaque dispositif, à la fois est-ce qu'on a utilisé de l'impression 3D, du textile électronique, ou alors carrément un capteur de mouvement. Et donc voilà, on a envie aujourd'hui que cet igloo puisse être un démonstrateur d'un univers de possibles qui s'ouvre à nous et qui sort vraiment des interfaces à écran et qui revient vers la manipulation et le corps. Voilà.
François, je me tourne vers vous. En quoi c'est important pour vous d'avoir un projet comme celui de Marion, qui se tourne donc plutôt vers le monde de la petite enfance, au programme du Turfu Festival?
Alors déjà, ça touche pas mal de sujets. Effectivement, quand on pense recherche participative, on penche pas tout de suite forcément jeunes publics et familles. Donc c'est aussi rompre avec les représentations qu'on peut avoir, se dire bah tiens, dans un festival de recherche participative, non, ça va pas être que des adultes ou des étudiants ou des spécialistes et des chercheurs. C'est vraiment une dynamique qui peut être collective et familiale. Ensuite, ce qui est intéressant avec aussi les projets, comment dire, qui s'intéressent plus à un jeune public, c'est que c'est aussi pour nous l'occasion de montrer qu'il y a une continuité entre le chercheur, le parent, l'enfant, et peut-être même que des parents qui ne seraient pas forcément venus ou ne seraient pas forcément intéressés à des démarches de recherche participative, au travers finalement de ce qu'ils souhaitent expérimenter ou ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils désirent aussi pour leurs enfants demain, ils vont être amenés à découvrir cet univers, ce milieu, et peut-être aussi s'ouvrir à d'autres thématiques au travers finalement de leurs enfants. Donc c'est un petit peu tout ça qui fait que nous on essaye maintenant pour la deuxième année consécutive d'avoir un temps un petit peu dédié effectivement jeune public familial. On met ça le mercredi en général, c'est resté la journée des enfants, pour aussi permettre à ces publics qui s'y retrouvent pas forcément sur l'offre complète du festival, d'avoir un point d'accroche, un point de rencontre finalement aussi avec les chercheurs.
Et comment vous avez découvert l'Igloo?
Alors ça, c'est aussi une question de réseau. Il se trouve que nous, le CRI, hein, le Centre de Recherche Interdisciplinaire, c'est des personnes avec qui aussi on discute, avec qui on partage des valeurs, des interrogations et des questionnements communs. Et puis, il se trouve que l'année passée, on a travaillé, nous, avec un projet en local, hein, un projet normand qui s'appelle Lily Learn, qui développait aussi beaucoup d'objets, on va dire, connectés, mais sans écran, enfin, qui réinterrogeait justement la place de l'objet sans écran au travers de l'apprentissage de la lecture ou du calcul. Il se trouve que finalement ils ont rencontré Marion, ils m'ont dit il faut absolument que tu rencontres Marion et l'équipe et le projet, et puis que tu les invites au Turfu Festival. Donc c'est vraiment par l'intermédiaire de projets comme ça, de fil en aiguille, par cooptation un petit peu avec des projets avec lesquels on partage un certain nombre de valeurs. Donc c'est voilà, beaucoup,
c'est toute la beauté du participatif.
Voilà, donc un ensemble de faisceaux qui se croisent comme ça. Quelqu'un en qui on croit, qui nous dit, c'est génial ce qu'ils font. Et en plus, il se trouve que c'est au CRI et qu'on aime beaucoup ce que fait le CRI. Donc, ça double coche.
Pour attraper des bêtes, il faut imiter les femelles. La femelle lièvre.
La hase.
De quoi?
La femelle lièvre, c'est la hase.
Alors, moi, je connais que le CRI.
Alors, on va mettre tous les guillemets de rigueur, car l'époque est plutôt à l'incertitude et au report, voire à l'annulation. On croise bien sûr tous les doigts à notre disposition pour que tout se passe bien du côté du Turfu Festival. François, qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec certitude sur l'édition 2020?
Je sais avec certitude que nous n'avons aucune certitude, donc ça c'est bien. Je sais avec certitude que si ça a lieu, ce sera au mieux du 5 au 10 octobre. Donc 5 au 10 octobre prochain, c'est vraiment la période sur laquelle on essaie de se concentrer, de se resserrer. Et on sait que dès à présent, si on veut croiser l'igloo, contribuer avec ses enfants à venir y participer, ou même à tout individuel y aller, et ce sera le 7 octobre, hein, le mercredi. Donc ça c'est voilà, en tout cas sur les quelques éléments sûrs qu'on a réussi nous à poser, parce qu'on est comme tout le monde en fait, on sait pas comment on sait qu'on est très très volontaire, on est aussi militant. Par rapport à ce festival, on y va aussi un peu comme un acte de résistance, entre guillemets. Je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais c'est le premier qui me vient là quand j'y pense.
De résilience, par exemple.
voilà, peut-être de résilience, mais se dire en tout cas, non, on veut pas se laisser contraindre. En tout cas, on veut inventer nous-mêmes les propres modes de collectif qu'on a envie de mettre après. Donc, on a plutôt envie de se dire, ok, on travaille sous contrainte. Et ben, la créativité, elle arrive sous contrainte. Ça fait partie de ce en quoi on croit, en tout cas, et de se dire, ben voilà, si on a imaginé un festival, on va créer les conditions pour qu'il puisse avoir lieu avec toutes les contraintes qu'on nous donnera.
Alors, résistante et résiliente, est-ce que l'édition 2020 du Turfu Festival, elle a un thème et des éléments du programme que vous pouvez nous dévoiler ?
Alors, on va à nouveau effectivement avoir un temps dédié au public familial, jeune public, et puis le spectre de la recherche participative est extrêmement large. Recherche et innovation participative, hein. Il y en a qui ont des définitions très serrées. On parle de recherche action, enfin, ça couvre énormément de postures, tant pour les chercheurs que pour les participants qui participent. On dit beaucoup ce mot-là. Donc, c'est un champ d'acceptation extrêmement large. Il est clair que là, avec la crise qu'on vient de traverser et qui continue, on a envie de se resserrer sur un certain nombre de projets, où on a envie de se dire, bah, finalement, le Turfu, c'est futur en Verlan, on va se donner les moyens dès à présent. Imaginez justement ce monde de demain dont tout le monde parle. Donc voilà ce sur quoi on voudrait se concentrer. Alors, les questions de mobilité seront présentes, effectivement, comme on je ne sais pas si vous avez vu les statistiques, mais on a plus de 80% de diminution du trafic automobile, et pourtant on a à peine 50% de baisse des accidents et de la mortalité. Donc c'est bien qu'il y a des choses qui peuvent interroger sur comment on continue de bouger, de se déplacer au jour le jour. Moi, je ne sais pas si Marion, le projet, la conception qu'elle a de son projet a évolué avec la crise. Se dire, bah tiens, effectivement, on a parlé de continuité pédagogique, on a parlé, voilà, on a eu une espèce de déferlante comme ça d'outils qui nous sont arrivés. Et finalement, est-ce que le projet qu'elle vient de nous présenter, c'est quelque chose en plus, encore, à nouveau, ou au contraire, c'est quelque chose qui peut accélérer, faciliter justement ces transitions parfois entre du présentiel et du numérique. Donc ça fait partie aussi de ces questions qu'on veut poser. Et puis, on aura, je pense, une entrée peut-être plus dimension environnementale, peut-être, de se dire, voilà, on parlait de mobilité tout à l'heure, mais on sait aujourd'hui qu'il y a pas mal de choses qui tournent dans ces questions-là, donc on a envie de les questionner. Après, je pense que le jeu sera très présent. La question de comment, au travers du jeu, alors là, on ne parlait pas forcément de jeu dans le projet de Marion, mais il y a quand même cette idée de manipuler, de jouer, d'être dans des comportements un peu intuitifs et naturels. Donc cette question du jeu et comment le jeu peut être aussi un outil au service de la collaboration, du participatif, de la recherche participative, c'est quelque chose qu'on va essayer de creuser. Donc on a plusieurs projets comme ça qui se dessinent autour du jeu. Comment, voilà, peut-être que certains on a entendu parler ici, mais les plateformes de jeux permettent aujourd'hui de faire de la recherche. Il y a des travaux qui ont même été faits là sur le Covid. On essayait de voir justement comment, au travers de plateformes de jeux, on pouvait réussir ou pas à faire avancer la recherche. Donc, cette question du jeu.
Pour un prochain épisode, pourquoi pas.
Vous voulez pas la jouer soft, je suis pas contre à rien. Vous voulez la jouer hard, on va la jouer hard.
Alors François, je reviens sur ce que vous avez dit un peu plus tôt au sujet du confinement. Marion, est-ce que dans la philosophie, dans son application, le confinement a changé quelque chose pour l'Igloo et pour votre plus globalement pour votre projet ?
Alors il y a deux choses que je vois là-dedans, c'est que déjà on ne peut plus effectivement faire de la recherche comme on l'a toujours fait, puisque la question d'une recherche à distance se pose. Et donc la question là de l'utilisation des outils numériques pour récolter des données sur l'enfant, extrêmement importante. Le fait d'intégrer aussi les acteurs tels que les familles au sein du processus de recherche, là aussi, est valorisé, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra de nouveau réaccueillir des familles et des enfants au sein des laboratoires qui sont au sein même des universités. Donc déjà, ça, c'est une première question. Et la deuxième réponse qu'on essaye d'apporter, c'est que cet espace, il peut être utilisé donc par un enfant, et on peut très bien imaginer un protocole qui soit fait dans un lieu extrêmement sécurisé. Donc l'enfant vient avec sa famille, vient tester le dispositif et repart. Et en fait, on l'a pensé entièrement en textile et l'ensemble en fait des dispositifs sont facilement nettoyables, puisque en fait quand on travaille avec des très jeunes enfants, on sait que on n'est pas à l'abri d'un imprévu. Donc il y a deux aspects qui ici sont intéressants, c'est cette question de la recherche participative et cette question d'un dispositif qui est entièrement, on va dire, désinfectable et nettoyable en cas de problème d'hygiène, quoi.
J'ai fait un petit popo.
Quoi ? Vous déconnez ?
Qu'est-ce que je disais ?
C'est l'hygiène, ça. Les Irlandais, ils sont cradingues, comme pas permis.
Exceptionnellement, malgré notre grand âge, nous avons pu pénétrer et faire le tour de l'igloo avec un E. Merci donc à Marion Voileau et François Millet d'avoir rendu cette visite possible. Avant octobre, nous ferons d'autres épisodes hors série comme celui-ci. Et l'on espère bien sûr être présent au Turfé Festival, pourquoi pas pour une émission participative. Notre programme classique avec nos amis de Science et Avenir reste, lui, inchangé, à raison d'un enregistrement toutes les deux semaines. Nos prochains épisodes prendront la voie des airs, puisqu'on y parlera migration, avec deux angles on ne peut plus différents. Le premier s'intéressera au sort des hirondelles, quand le second nous mettra sur les traces des sondes spatiales aux confins du système solaire. A très vite donc, et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens.
2,21 gigawatts, mon Dieu !
Recherche, scanner.
Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue ?
Chut, Jamy, je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.